Bon, pour ceux qui ont encore leur feuille, on est à la page 83. Pour moi, c'est milieu vers le bas. Pour vous, c'est peut-être plus vers le bas. mais page 83, et on était en train de toujours parler de cette mine de la peur, hein, de la crainte et ce qu'elle nous fait, comment la surmonter. On avait parlé de traverser les tempêtes. Là, on est en train de traverser comme le psaume le dit, le vallée de la mort. Et on avait parlé en tout dernier de Matthieu 28, 19 et 20, où cette dernière phrase où Dieu nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est après de nous avoir donné l'ordre qu'on doit aller, qu'on doit témoigner, qu'on doit partager. Et avec les autres enseignements, on sait que avec cet ordre, ça ne sera pas facile. Ben, les disciples et les apôtres, c'était les premiers à nous montrer l'exemple que parce qu'ils ont obéi à ce commandement, parce qu'ils sont allés de partout le monde pour prêcher, ben ils ont été persécutés, ils ont été emprisonnés, ils ont été lapidés, ils ont été mis à mort, etc. Et ça ne va pas être facile, mais Dieu a dit, je serai avec vous, je ne vous laisse pas. C'est même Christ leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas juste une présence, ce n'est pas juste, je suis conscient de ce qui se passe chez vous tous les jours, mais je suis avec vous à cette connotation de... Je vais lutter avec vous, je vais vous soutenir. Et quand on avait également parlé du fait que la peur n'est pas quelque chose qui devrait définir un chrétien. C'est un peu comme l'athlète, la fainéantisme et l'indiscipline, ça ne devrait pas caractériser, ça ne devrait pas définir ce qu'est un vrai, un bon athlête. Un bon athlète, c'est quelqu'un qui n'est pas fainéant, qui va se mettre au travail, qui est discipliné, etc., etc. Et là, c'est la même chose pour la peur et le chrétien. La peur ne devrait pas être ce qui définit le chrétien, mais plutôt les mots que nous voyons en Galate avec le fruit de l'esprit. Hein. C'est la foi, la paix, l'amour, la confiance, etc. Ça, c'est ce qui devrait définir. Ça, c'est ce qui démontre ce qu'un chrétien devrait être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de chrétien qui n'aura pas peur, mais ça ne devrait pas ce qui décrit ce que nous sommes. Et on s'était arrêté avec cela. Et on continue en disant que la peur, et on en a parlé un tout petit peu, la peur va nous faire penser à des choses qu'on ne penserait pas autrement. La peur va toujours exagérer la situation dans laquelle on se trouve. Toujours, toujours, sans exception. Elle va toujours pousser notre imagination à voir et croire des choses qui seront très loin pour nous chrétiens de la sagesse de Dieu. Elles sont même très loin de la réalité même. Une bonne imagination, comme on dit parfois, une imagination débordante, ça peut être une bonne chose. On l'encourage surtout chez les jeunes à l'école. Mais quand nous sommes dans une situation de crainte, quand nous avons peur, cette même imagination débordante, elle deviendra notre ennemi. Et parce que nous allons, entre guillemets, entendre des choses qui ne sont pas là, nous allons voir des choses qui ne sont pas là, et nous allons croire des choses qui ne sont pas vraies, juste à cause de notre imagination qui imagine des choses qui ne sont pas là. Hein, je donne l'exemple de moi quand j'étais très jeune, il y a 5 ans de cela, j'étais même pas adolescent, on vivait dans une maison, on avait un sous-sol complet. Mais c'est un peu comme le sous-sol que nous avons maintenant, où c'est en dessous du niveau de la terre. Donc, et on n'avait pas de fenêtre. Donc, quand on éteint dans le sous-sol, c'est le noir complet. Mon sous-sol à la maison, je le connais bien. Je le connaissais bien. Je savais où tout était situé. Et on avait des escaliers en pierre, en béton, pardon, qui remontaient jusqu'à la maison, et il y avait l'interrupteur qui était juste là, il y avait l'interrupteur juste en haut des escaliers. Et j'étais au pied, en bas de l'escalier, je regardais tout, je vois où tout est, et j'éteins. Et c'est noir complet. Et je reste là. Et tout à coup, je commence à entendre des choses. Et tout à coup, je commence à imaginer des choses. Et je me répète, mais c'est bête, je sais où je suis, je sais qu'il n'y a rien ici. Puis ensuite j'entends quelque chose. Mais. Et je voulais voir, je regardais ma montre, le temps que ça me prenait pour remonter les escaliers en courant, claquer la porte derrière moi. Ah, j'ai tenu 1 minute et demie. J'avais l'impression que ça fait au moins 1 heure que je suis là. Non. Et plus tard, parce que j'ai voulu surmonter ces peurs, j'ai dit, bah, je vais éteindre et je vais commencer à marcher de l'autre côté de la pièce, du sous-sol. Et le plus que je prenais un seul pas, je suis en train de m'éloigner des escaliers. Pire, je suis en train de m'éloigner de l'interrupteur. Et je prenais un autre pas, et un autre pas. Alors que, est-ce qu'il y avait un vrai danger? Ben non, c'est notre sous-sol, il n'y a rien. Et je sais où tout se trouvait. Mais mon imagination, avec la crainte, déborde et elle devient mon ennemi. Elle me faisait peur alors qu'il y avait absolument. Ce n'est pas si différent dans notre cas spirituel. La parole de Dieu, on le sait, elle est comparée à une lumière, n'est-ce pas? Sur notre sentier, par exemple, en psaume, Jésus-Christ dit qu'il est lui-même la lumière. Il dit que nous devons être une lumière parce qu'on doit refléter sa gloire. La lumière, on le sait, ben, elle chasse les ténèbres. Elle chasse, en chassant cette obscurité, elle va enlever les craintes, ben, de l'inconnu, des choses qu'on ne voit pas, de ce qui est invisible, qui pourrait nous, pas pour forcer, mais nous encourager à utiliser notre imagination d'une manière négative. Elle l'illumine, elle éclaire, il n'y a pas de doute à avoir, ben, on voit où tout est, et on voit qu'il n'y aurait aucun danger. La lumière, automatiquement, elle va calmer, elle va rassurer, elle va encourager, elle va redonner confiance. Notre peur, elle, ben, elle remettra en doute les promesses que nous savons déjà. Ce n'est même pas le fait qu'on ne connaît pas les promesses de Dieu, qu'on ne connaît pas la personne de Dieu, mais notre peur va remettre en doute ces mêmes promesses et la personne même. Elle fera poser des questions là où on n'aurait jamais osé poser des questions. Quand tout va bien, quand on n'a pas peur. Je crois que j'ai laissé le passage dans vos notes, en le psaume 18, verset 31 et suivant, dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bon, déjà, je m'arrête là dans le fait que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bouclier si on n'est pas attaqué? Et si on n'est pas soldat non plus, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'armure du soldat ou on a le bouclier de la foi? Mais là, la parole de l'Éternel, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. J'aurais pu donner plein d'autres versets qui parlent des choses similaires, mais celui-ci regroupe dans des versets assez restreints la vérité du fait que la différence qu'il y a. Quand on comprend que je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que je suis fort, mais à cause de qui Dieu est. Et c'est la personne même de Dieu, ce sont ses promesses qui chassent les craintes. Et les personnes qui restent dans les craintes, qui restent dans la peur au ventre, comme on dit, dans leur vie, ce sont des personnes qui refusent d'accepter Dieu et ses promesses. Ils ne peuvent pas changer eux-mêmes assez pour chasser toutes les craintes. Et la vérité est, quand nous passons par cette vallée, nous avons souvent peur, non parce que nous doutons parfois non plus de la personne de Dieu, mais parce que nous avons une fausse image de nous-mêmes. Parce que c'est une chose de savoir qui Dieu est, c'est une chose de connaître ses promesses, mais si nous, on ne se voit pas comme on doit se voir, on va dire, bah, de toute façon, ces promesses, elles ne sont pas pour moi. C'est qu'on n'a pas encore compris quelque chose. Parce que comme en toute chose, il faut avoir un bon équilibre. Savoir que nous sommes rien, hein, sans Dieu, mais savoir également qu'avec Dieu, que rien n'est impossible. Ce n'est pas l'un qui doit surplomber l'autre. Je dois comprendre qu'il y a un équilibre entre les deux. Oui, rien ne m'est impossible avec Dieu, mais seulement quand c'est dans sa volonté. Et la même vérité est vraie aussi que je ne suis rien sans Dieu. mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut rien faire sans moi, à travers moi. De rester avec la pensée que nous ne sommes rien, ça ne va pas nous aider, n'est-ce pas? Ça va juste dire que bah, je ne suis rien, il n'y a rien d'autre, c'est pas la peine. Bon, c'est même pas la peine d'essayer. Et c'est ce qui va nous amener justement à la peur, la crainte, quand les difficultés commencent à être trop grandes et trop nombreuses, parce qu'on sait qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien y faire. De rester avec seulement la pensée que je peux tout, bah, nous amène à la catastrophe aussi. Si je dis que je peux tout, mais pas grâce à Dieu et à travers Dieu et par sa force, bah, on va foncer tête baissée et on va se retrouver KO parce que le mur est plus fort que nous. Et parce qu'on va être déçu. On dit, bah, je pensais réussir, puis j'ai raté, puis suivi de, comme on a vu, de la déception viendra le découragement. La peur, la crainte peuvent commencer à disparaître quand nous commençons à avoir cet équilibre et comprenons plusieurs choses concernant la personne de Dieu. Trois spécifiquement. La première chose, c'est que Dieu aime faire preuve de grâce et de miséricorde. Ce n'est pas juste le fait que Dieu aime donner la grâce ou que Dieu donne la grâce ou que Dieu, comme on le voit tellement de versets qui nous disent que Dieu est miséricordieux, ce sont des vérités tout à fait vraies pour nous, mais on oublie le côté que Dieu aime faire grâce, que Dieu aime être miséricordieux. Dieu ne donne pas, et heureusement, sa bonté de façon équivalente à nos actions. Imaginez un peu. Je te ferai selon ce que tu mérites. Ça, ce n'est plus la miséricorde dans ce cas-là. Et ce n'est plus vraiment la grâce non plus. Dieu agit par amour pour nous. Il fait preuve de grâce, il fait preuve de miséricorde. Le salut que nous avons reçu devrait être preuve suffisante pour cela, pour nous qui sommes sauvés. Nous n'avions pas besoin d'être de bonnes personnes avant que Dieu ne puisse nous sauver. On avait besoin d'être sauvés parce que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Dieu ne nous a pas accordé le salut basé sur nos actions. Et Dieu n'a pas accordé un salut différent pour une personne ou une autre selon la façon que cette personne est venue à lui. De même, après notre salut, Dieu continue à nous faire preuve de grâce et de miséricorde, à nous combler de sa bonté. Pourquoi? Par amour pour nous. Parce qu'il a choisi de nous aimer alors qu'on n'avait rien d'aimable. Nos actions peuvent empêcher Dieu d'agir, c'est vrai. Tout comme la personne qui refuse d'accepter de placer sa foi en Dieu ne pourra pas être sauvée. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va bénir en mesurant nos actions pour mesurer combien ou à quel point il doit ou qu'il peut nous bénir non plus. Romains 5, verset 20, deuxième partie du verset, nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Rien que cette phrase devrait encourager n'importe quel chrétien. Ça devrait encourager même l'inconverti. Que oui, nos péchés sont en abondance. On est coupable. Mais la grâce a surabondé. C'est-à-dire, peu importe la gravité de notre péché, peu importe la nature de notre péché, peu importe combien, hein, le nombre de péchés que nous avons commis, ça ne peut pas rivaliser avec la grandeur et l'abondance de la grâce de Dieu. Du fait qu'il veuille nous donner ce dont on a besoin, malgré le fait qu'on ne le mérite pas. Il faut accepter que Dieu aime faire preuve de grâce et de miséricorde. Si on veut combattre la peur et la crainte, ça n'a rien à voir de ce que, est-ce que Dieu va m'aider parce que je le mérite? Mais Dieu peut m'aider parce qu'il m'aime. C'est toute la différence. Il va me faire grâce, il va me faire miséricorde. Il n'y a même pas à douter de si Dieu fera grâce ou si Dieu fera miséricorde. Il nous le promet à maintes reprises à travers sa parole qu'il le fera. Et Dieu n'est pas menteur. Et il le fait non parce que je le mérite, mais parce qu'il m'aime. La deuxième chose qui nous aidera en réalisant par rapport à la personne de Dieu, c'est que Dieu nous accepte qui nous sommes à cause de la personne de Christ. Sans Christ, il nous est inutile de nous présenter devant Dieu. Nous n'avons absolument rien à apporter de valeur à Dieu de par nous-mêmes. Absolument rien. C'était vrai pour notre salut, c'est vrai après notre salut. Quand nous avons prié pour notre salut, nous avons reconnu que nous étions pécheurs, donc coupables, donc indignes d'être en présence de Dieu. Nous avons reconnu également que Christ est mort pour nous à notre place, que c'est pour moi qu'il est mort, que si ce n'était pas pour moi, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Nous avons reconnu également qu'il est ressuscité. et que c'est son sang qui nous lave et nous purifie, pas mes actions, pas mes œuvres, pas quelque chose que je puisse faire, mais ce que Christ a fait. Nous sommes venus devant Dieu en plaçant notre confiance, notre foi en la personne de Christ. On n'est pas venu devant Dieu pour notre salut en plaçant notre confiance en nous, en nos œuvres, en notre sagesse, en notre connaissance ou autre chose, mais dans la personne de Christ et Christ seul. Après notre salut, nous continuons à nous présenter devant Dieu sous l'autorité de la personne de Christ. Il faut comprendre cela. C'est ça qui nous aidera à combattre également cette peur et cette crainte. Nous terminons nos prières tout le temps en disant au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Pourquoi? C'est pas juste parce que Dieu dit qu'il faut qu'on le fasse, mais c'est parce que on réalise, on accepte, on admet qu'on ne vient pas devant Dieu de par notre propre mérite. Que si ce n'était pas pour Christ, on n'aurait toujours pas accès à Dieu. On n'aurait toujours pas le droit de parler à Dieu. Mais que nous pouvons venir devant le trône de la grâce sous l'autorité, l'approbation de Christ qui me rend pur et juste de le faire. Parce que je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu nous accepte, même après notre salut, à cause de la personne de Christ. C'est lui que la Bible dit intercède auprès du Père pour nous. Même après le salut, et non à cause de nos actions. Dieu accepte ou rejette nos actions, c'est vrai, mais Dieu ne refuse personne qui vient devant lui sous l'autorité de Christ. Absolument personne. Alors, la troisième et dernière chose, et on terminera avec ça ce soir, c'est que Dieu désire qu'on accepte sa façon de voir les choses. Très souvent, la peur et la crainte n'auront pas un aussi grand effet sur notre cœur si on accepte de regarder et accepter la situation de la même façon que Dieu la voit. Mais il faut prendre le temps de le faire et ne pas s'obstiner à vouloir obliger Dieu à changer les situations qui nous font peur. Et même quand il s'agit de nous-mêmes, nous avons parlé du fait que certains ont peur parce qu'ils ne se voient pas comme étant à la hauteur à la situation. Mais ça, c'est trop. C'est trop lourd pour moi, je ne peux pas supporter une telle charge. Ils se disent, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas assez intelligent ou autre. Mais s'ils pouvaient se voir tels que Dieu les voit, ça pourrait faire une différence dans la manière que cette même situation ne les rendrait pas autant peur. Parce que je suis persuadé que Dieu ne nous regarde jamais, jamais. Il n'y a pas la moindre personne que Dieu regarde comme étant un cas désespéré. Un bon à rien qui n'arrivera jamais à faire ce qui est juste. Dieu ne porte le regard sur personne de cette façon-là. Je suis persuadé que quand Dieu nous regarde, surtout nous qui avons déjà fait profession de foi, qui sommes devenus ses enfants, il voit le potentiel de tout ce que lui peut et voudrait faire à travers nous. Si seulement nous voulons bien nous en remettre à lui, nous voir comme lui nous voit. Très souvent, on va se voir d'un extrême à l'autre. Il y en a qui se voient comme étant beaucoup mieux qu'ils ne le sont. Et ils veulent que les autres le voient et les voient et les complimentent, etc. Et d'autres qui se voient bien en dessous de ce qu'ils ne sont. Et ne voient pas la valeur qu'ils ont auprès de Dieu. Que Dieu les aime et Dieu n'aime pas les choses qui n'ont aucune valeur. Il dit, mais toi, j'ai choisi de t'aimer. Et je peux te faire à ce que tu aies de la valeur, si tu veux bien m'accepter tel que je suis. Je vous demande ceci, mais c'est à vous de répondre en vous-même. Avez-vous déjà demandé à Dieu de vous aider à vous voir tel que lui vous voit? Que ce soit avant votre salut ou si vous êtes déjà sauvé, même après. Dire, mais Seigneur, aide-moi à me voir de la façon que toi tu me vois. Et ensuite lire sa parole avec cette connaissance que nous avons prié cela et qu'on s'attend à ce que Dieu réponde à notre prière, à ce qu'il révèle. Voici un exemple d'une des façons de comment je te vois. Peut-être il dira, voici comment j'aimerais te voir. Mais ça, c'est la façon qu'il nous voit aussi. Tu n'es pas encore tel que j'aimerais que tu sois, mais je travaille avec toi pour que tu le sois. Je ne t'abandonne pas. Vous serez peut-être surpris des choses que Dieu vous révélera à travers sa parole, sur comment lui voit ses enfants. Peut-être au début, ce sera comment Dieu voit ses enfants dans la généralité. Et ensuite, il commencera à montrer de manière plus spécifique. Vous serez peut-être surpris de voir que malgré vos faiblesses, que malgré vos manquements, malgré vos limites en connaissances et autres, en talents, je ne sais quoi, mais que malgré toutes ces choses qui, pour nous, on donne l'impression, nous rabat, que Dieu vous aime d'un amour parfait, complet, entier, et que Dieu désire votre amour et votre fidélité. Que Dieu n'aime pas celui qui est bourré de talents plus que vous qui n'en avez aucun. Que Dieu vous aime chacun, chaque personne, entièrement. Si on est tous aimés par Dieu entièrement, ben on est tous aimés de Dieu pareillement. Et non l'un plus que l'autre. Vous serez peut-être surpris de voir que son amour pour vous, d'ordre personnel, ne change même pas un tout petit peu selon votre obéissance ou votre désobéissance. Parce que Dieu a choisi de vous aimer d'un amour parfait dès le départ. Même avant votre salut. Ah, on peut le chagriner, on peut l'attrister, mais tel un enfant attriste ses parents quand il le désobéit, ça ne change en rien l'amour du parent pour cet enfant. Et ça c'est de nous, avec nos faiblesses, Dieu qui ne change jamais, qui est amour et qui a choisi de nous aimer depuis la fondation du monde, notre obéissance ou notre désobéissance ne change en rien le fait qu'il continue à nous aimer d'un amour parfait. Le plus que j'accepte de me voir tel que Dieu me voit, le moins que je suis centré sur ma personne, et le plus que je suis poussé à louer le Seigneur et à l'adorer, comment ne pas le faire? Comment puis-je continuer à me laisser influencer par mes craintes et par la peur, tout en louant Dieu avec sincérité? Et on s'arrêtera là pour ce soir et on continuera, Dieu voulant, la prochaine fois sur le fait qu'il faut considérer les conséquences si on choisit de se laisser aller à cette peur, à cette crainte, malgré tout.